VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, un acteur de la société civile et un responsable politique sont en détention. Il est reproché au premier, qui est membre d'un mouvement dit pour la révolution démocratique, le délit d'incitation à la révolte populaire. Quant au second, qui est président du regroupement des partis de l'opposition, on ignore jusqu'à présent les raisons de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey, nous dit notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa.
Abdramane Issar, le militant du mouvement pour la révolution démocratique au niveau de la région d'Agadez, est lui fixé sur son sort. Il a en effet été présenté après une garde à vue de 48 heures à un juge qui l'a inculpé et placé sous mandat dépôt pour le chef d'accusation d'incitation à la révolte populaire suite à une publication sur Facebook. Le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le regroupement des partis politiques de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, est lui au terme ce mercredi matin des 48 premières heures de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey, sans savoir ce qu'on lui reproche selon des responsables de l'opposition qui étaient mardi après-midi face à la presse. Pour ces derniers, le régime, en agissant ainsi, a touché le fond de l'intolérable et sera responsable de ce qui adviendra après l'expiration des délais réglementaires de la garde à vue. L'opposition a exigé, comme un collectif d'organisation de la société civile, la libération de Max et de tous ceux qui sont privés de leur liberté pour leur opinion. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, l'Université d'État du Michigan aux États-Unis au secours du patrimoine culturel malien. Grâce au projet Matrix, 100 000 images rares des archives originales de 5 photographes professionnels maliens ont pu être numérisées dans le but de les rendre accessibles à un plus large public. Ce projet vise à répondre non seulement aux besoins de la recherche et de l'enseignement, mais aussi à la nécessité de préserver le patrimoine culturel du Mali. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
L'ambassadeur des États-Unis au Mali et le ministre de la Culture ont procédé au Musée national de Bamako au lancement d'un site internet et le vernissage de l'exposition ici des archives de 5 photographes professionnels maliens, à savoir Malik Sidibé, Adama Kouyaté, Tidjane Situ, Abdramane Sakali et Mamadou Sissi.
Candace Keller, je suis un professeur aux États-Unis. Nous avons travaillé ensemble pour choisir les photos. Nous avons nettoyé, catalogué, numérisé et c'est 25 000 négatifs originaux de chaque photographe. Nous avons travaillé avec 5 photographes ensemble. C'est la famille même qui a choisi l'image que nous avons travaillé dans ce projet.
Ce projet d'archives de la photographie malienne est financé par un fonds provenant du National Endowment for Humanity du gouvernement américain. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Ce projet vise aussi à rendre accessible à l'échelle mondiale les archives des photographes les plus importants du Mali. Ces images seront désormais accessibles aux quatre coins du monde, deviendront pérennes et il suffira d'un seul clic pour découvrir tout un pan de la culture malienne. Le gouvernement des États-Unis se réjouit d'avoir soutenu ce projet qui permettra au monde entier de découvrir la riche culture du Mali.
Si le problème de la préservation et de la conservation est un acquis, il y a la protection des familles des photographes qui n'a pas été discutée. Youssouf Sakali, porte-parole des familles des 5 photographes.
En effet, il s'agit de la protection des familles détentrices d'archives, car combien de ces familles sont déjà déchirées aujourd'hui ou sont sur le point de l'être, fait qu'ils ne maîtrisent pas l'exploitation de leurs fonds? Combien de familles sont à la merci d'exploitants commerciaux? Je parle des agences de photographie, certaines, bien sûr, pas tous, qui sont vraiment sans scrupules. Combien d'expositions aujourd'hui avec les archives de Malik Adama Kouyaté ou de mon père qui sont organisées dans le monde sans que la famille ne soit informée, sans qu'aucun compte rendu même a posteriori soit effectué? Combien de familles ont vu leur archive physique partir à l'étranger et ne jamais revenir?
Le ministre de la Culture du Mali a salué la vitalité des relations entre le Mali et les États-Unis, mais singulièrement dans le domaine de la culture. Ndiaye Ramatoulaye Diallo.
Je voudrais avant tout saluer cette belle initiative qui a permis d'assurer le traitement, la conservation et la préservation de documents photographiques anciens réalisés par les photographes maliens et les rendre plus accessibles aux artistes, chercheurs et universitaires à travers le monde. Je reste convaincue que les archives des photographes cités seront mieux conservées, que les droits des détenteurs de ces fonds ou leurs ayants droit seront entièrement respectés.
À travers les vernissages de l'expo, les visiteurs ont vu les images qui documentent les pratiques traditionnelles, culturelles et religieuses, les festivals ruraux, les impacts coloniaux et les processus de modernisation des villes comme Bamako, Mopti et Ségou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, alors que le pays commémore aujourd'hui le 20e anniversaire du renversement du dictateur Mobutu Sese Seko et de l'arrivée au pouvoir du chef rebelle Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président Joseph Kabila, la prison centrale de Makala à Kinshasa a été attaquée tôt ce mercredi par des miliciens d'un groupe sécessionniste politico-religieux. Les assaillants sont parvenus à faire évader leur chef, Né Mwanda Nsemi, et une cinquantaine de personnes, selon le gouvernement congolais. Le député Né Mwanda Nsemi dirige un mouvement politico-religieux prônant la sécession du Congo central, province de l'ouest de la RDC. Et il est accusé d'avoir mené une série d'attaques meurtrières contre des symboles de l'État depuis la fin de l'année 2016, ce qui a conduit à son arrestation début mars par la police après deux semaines de siège de sa résidence à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, la police traque les personnes qui ont attaqué la prison de Makala. Et toujours en RDC, le gouvernement de transition finalement investi mardi à Kinshasa par les députés de l'Assemblée nationale. Au terme d'une plénière qui a duré 9 heures et qui a été marquée par la sortie de la salle d'une centaine de députés de l'opposition, le Premier ministre Bruno Tshibala a reçu le feu vert des élus pour conduire le pays vers des élections durant cette période de transition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
336 voix pour, une seule abstention, 0 voix contre, c'est le résultat du vote qui a sanctionné l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017. En dépit de la controverse suscitée par le rejet de la motion incidentielle du député de l'opposition Koko Moulongo, ce qui a poussé les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle à coups de sifflets et de vuvuzela, le gouvernement d'Union nationale chargé de conduire la RDC vers les élections fin 2017, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, a bien reçu le feu vert des députés après la présentation par le Premier ministre de son programme. Concernant les élections, Bruno Tshibala a affirmé que son gouvernement a pour ambition d'offrir à la RDC les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu. Le social, il en a également été question lors de cette cérémonie d'investiture. Alors que la crise a atteint des proportions inquiétantes avec la dépréciation quotidienne du franc congolais, Bruno Tshibala a annoncé une batterie de mesures urgentes pour arrêter l'hémorragie. Le gouvernement de transition entre donc en fonction dans un contexte particulier. Le rassemblement que dirige Félix Tshisekedi a qualifié sa nomination de violation manifeste de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, lors de son premier déplacement à l'étranger, le président des États-Unis Donald Trump prononcera dimanche à Riyad un discours sur une vision pacifique de l'islam. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Ce discours sera prononcé devant les dirigeants de plus de 50 pays musulmans. Une véritable tribune pour le président américain qui devrait insister sur l'engagement des États-Unis envers ses partenaires musulmans. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné quelques détails supplémentaires. Donald Trump s'exprimera également sur la nécessité d'affronter les idéologies radicales et sur ses espoirs pour une vision pacifique de l'islam. Le discours du président américain est particulièrement attendu, les détracteurs de Donald Trump lui reprochant son décret anti-immigration qui, selon eux, attise l'islamophobie. Le président américain entame samedi à Riyad son premier déplacement hors des États-Unis, qui le mènera aussi en Israël et au Vatican. Autre étape obligée pour le président américain, le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 à Catane en Sicile.
A noter pour terminer que le président soudanais Omar al-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour génocide, a été invité au sommet de dimanche à Riyad entre le président américain Donald Trump et les dirigeants arabes et musulmans. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un responsable saoudien qui a requis l'anonymat et n'a pas été en mesure de dire si le président Béchir viendrait au sommet. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.